FR.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Comment améliorer la santé des adolescents quand ceux-ci rencontrent des difficultés? Que faut-il mettre en place pour que la prise en charge soit efficace? Améliorer la santé des 13-21 ans, c'est justement le but que s'est fixé le docteur Dina Vernant en créant un service de consultation pour adolescents en rupture. Un service unique en son genre à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Dina Vernant est l'auteur de L'âge violent, un livre qui paraît aux éditions du Seuil. Docteur Dina Vernant, bonjour.
Bonjour Claire Hédon.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Racontez-nous tout simplement comment se passe une consultation dans votre centre. Qu'est-ce que ça a de particulier chez vous plutôt qu'ailleurs?
Eh bien, c'est déjà l'accueil, qui est peut-être très différent d'ailleurs. Quand l'adolescent arrive, la première fois, il est le plus souvent accompagné par un adulte référent, c'est souvent l'éducateur, un éducateur. Parfois, malheureusement pas suffisamment souvent, la famille. Eh bien, l'accueil chez les secrétaires médicales, d'emblée, elle est différente, puisque on lui explique, la première chose qu'on lui explique, c'est que tout ce qu'il dira, tout ce qui sera fait dans ce service, lui appartient et est secret. Rien de ce qui sera dit entre lui et le médecin ou l'équipe soignante devra filtrer. Le dossier lui appartient, personne n'a le droit d'aller y regarder.
Ça, c'est très important. Et vous, quand vous avez après ces jeunes patients en consultation, vous le répétez, vous recommencez par dire ça.
Avant même de le répéter, lorsqu'ils sont dans la salle d'attente, ils lisent le serment d'Hippocrate. Alors évidemment, il y a des mots qu'ils peuvent pas comprendre et qu'on va leur expliquer. Il y a toujours une aide-soignante ou une infirmière pour leur expliquer les mots. Ils remplissent même un questionnaire qui est secret, qu'ils doivent remplir à l'abri des regards indiscrets de l'éducateur ou de l'adulte qui les accompagne. Souvent, ils vont dans une petite pièce à côté, accompagnés d'une aide-soignante qui va leur expliquer les termes des questions. Voilà, on est secret du secret, l'intimité, la vie privée.
Et l'éducateur ou le parent qui est là a souvent envie de savoir.
Ah ben ça, il lui est d'emblée expliqué que...
Il ne saura rien.
Voilà, ça ne... Il saura rien, c'est pas exactement ça. Il saura ce que l'adolescent acceptera que nous lui disions. Et de toute façon, on ne parlera jamais de lui en dehors de sa présence. Donc en fin de consultation, qui est très longue, on va rester... La première consultation, c'est au moins une heure, puisqu'on va tout envisager de la naissance au moment où on le reçoit. Il va pouvoir parler... quand il a un carnet de santé, on va relire tout le carnet de santé. Il va pouvoir se réapproprier toute sa petite enfance, parce qu'il n'a jamais pu lire ce qui est écrit par des médecins qui ont des écritures impossibles, combien il pesait à la naissance, son otite, comment il est tombé de la poussette. Ils sont très émus hein, quand on leur raconte tout ça.
Leur propre histoire.
Quand ils ont le bonheur d'avoir un carnet de santé qui n'a pas été égaré par les éducateurs dans les foyers ou...
Par les services sociaux.
Exactement. Ensuite,
vous pratiquez un examen, et ça a l'air une particularité de votre service, c'est presque étonnant, parce que cet examen médical avec des adolescents n'a pas toujours été pratiqué.
Eh bien, dans le temps... Probablement, moi je me souviens, oui, il était pratiqué, mais avec le temps on a oublié parce que on s'est mis à confondre, alors on pourrait en faire l'historique, on s'est mis à confondre santé des adolescents et santé mentale. Et qui dit santé mentale dit psy, et le psy ça ne met pas les mains sur le corps. Et ces adolescents qui subissent de façon violente, on est tous passés par là, c'est même étonnant que les adultes aient à ce point oublié ce passage de l'enfance à l'âge adulte.
Et comment ça peut être perturbant?
Et c'est très perturbant, et c'est des transformations du corps obligées qui posent vraiment question. Il faut pouvoir répondre à ces questions, faut les examiner, et nos adolescents ne sont plus examinés systématiquement. J'en veux pas à mes confrères installés en ville qui n'ont pas le temps, parce que c'est pas une consultation d'un quart d'heure. tard, comme malheureusement c'est habituellement le cas dans les cabinets de ville, qu'on a le temps d'examiner complètement un adolescent. Si c'est le médecin de famille qui connaît bien, parce qu'il le connaît depuis l'enfance, bah, l'adolescent, il est un peu réticent parce que est-ce que je peux me confier à ce docteur qui voit aussi papa et maman et
est-ce qu'il risque pas de répéter.
Voilà. Donc il a besoin d'avoir une distance, d'avoir son propre médecin et son propre médecin, il faut qu'il puisse se raconter et examiner totalement comme on fait avec les enfants et comme on ne fait plus avec les adultes et eux sont entre la pédiatrie et l'âge adulte, et ce passage très particulier, on ne sait plus examiner, et en particulier les organes génitaux. C'est quand même extraordinaire qu'on n'examine plus les organes génitaux, or que c'est quand même là que la transformation est la plus évidente, importante, et qui pose le plus de questions à l'adolescent.
Alors justement, pour essayer de mieux comprendre votre travail et ce que vous faites, Laurence Théo s'est rendue dans votre service. Elle a rencontré Clémentine, qui a 18 ans. Elle est étudiante en sociologie, mais elle n'a pas pu passer ses examens compte tenu de ses difficultés. Alors elle s'est d'abord adressée à Paris Ado Service, qui l'a envoyée dans votre service.
Je suis dans une famille monoparentale, donc j'ai été élevée par ma mère toute ma vie. Elle avait de gros problèmes d'alcoolisme qui m'ont conduit à plus d'une fois être face à des foyers pour les enfants ou encore des familles d'accueil en étant arrachée à ma mère sans même savoir pourquoi.
Une maman donc alcoolique, ça veut dire quoi pour une petite fille?
Ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai été confrontée à ma maman qui souffrait sans aide. Je devais lui apporter toute mon énergie, la plus grande aide qui venait de moi en fait. Bah, ça passe par essayer de parler, écouter, soutenir. Les rôles s'inversent totalement puisque j'ai été la maman de ma propre maman. C'est aussi une grosse responsabilité et c'est une part d'amour qu'on donne et c'est normal quand on est dans une relation mère-fille.
Vous aviez quel âge ?
La première fois que je me souviens de ma mère étant très très malade à cause de l'alcool, j'avais 6 ans. Ça a évolué de différentes façons, c'est-à-dire que selon les âges, on est plus à l'écoute, on discute, on s'énerve, parce que quand c'est vers 14-15 ans, on comprend pas. Moi je me suis dit, je ne pourrais pas aider ma mère, c'est ma faute. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de jeunes dont les parents peuvent être alcooliques.
Mais est-ce que vous avez ressenti, vous, des choses dans votre propre corps?
En fait, je suis venue ici surtout parce que, depuis à peu près le mois de novembre de l'année 2007, je me suis retrouvée toute seule face à ma propre santé. J'ai commencé par avoir des infections urinaires à la suite d'un avortement qui s'est extrêmement mal passé. Ma mère n'était pas là pour moi parce qu'elle-même était en souffrance, donc j'ai tout gardé en moi. Ces infections urinaires sont devenues chroniques, récidivantes, avec des problèmes, des souffrances dans l'intérieur du ventre et en bas du dos. Donc il a fallu que j'attende quelques mois pour me dire, voilà, il faut prendre en charge ses propres problèmes avant ceux des autres. Je pense qu'aujourd'hui, mes problèmes de santé sont liés à la souffrance que j'ai gardée en moi petite fille et à la souffrance que ma mère a chaque jour de sa vie. C'est vrai que je pense que ça s'est sincèrement répercuté sur ma propre santé.
Docteur Dina Vernan, ce témoignage est très révélateur de ce que vous voyez dans votre service.
Oui, c'est notre quotidien. À ceci près que cette jeune fille parle de façon remarquable, elle a eu la chance de pouvoir pousser ses études en dépit de tous ses malheurs, la façon dont elle a vécu avec sa mère. Elle était très intégrée, elle est d'origine française, de parents français, qui parlent le français, et donc elle a eu cette chance de pouvoir aller jusqu'aux études, de s'exprimer de cette façon-là, de pouvoir analyser les choses. Ce qui est quand même pas le cas habituel dans le service, puisque quand même l'immense majorité n'ont pas été jusqu'à ce niveau d'éducation.
Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a compris que c'est son corps qui exprime plein de choses. Et c'est souvent à cette occasion-là, finalement, que vous voyez ces adolescents. C'est qu'ils se mettent à manifester dans leur corps un malaise, avec une maladie.
Non, moi je ne vais pas le dire comme ça. Quelle que soit la situation, à cet âge-là, plus qu'à un autre, tous les sentiments passent par des sensations physiques. Je ne cesse d'expliquer à ces adolescents, pour pouvoir les angoisser, que quand on a peur, la peur c'est un sentiment, et pourtant... Quand on a peur, ça se traduit comment ? Le cœur s'accélère, la peau devient toute pâle, on a du mal à respirer, on a le ventre qui peut faire mal. Mais pourquoi un sentiment va se traduire comme ça physiquement ? Bah parce que dans le cerveau, pour qu'il y ait des sentiments, bah il y a des sécrétions hormonales, en particulier là c'est l'adrénaline, et que l'adrénaline qui passe dans le sang, ça rétrécit les vaisseaux, donc on a la peau qui devient toute blanche, le cœur qui s'accélère, la respiration. Et quand on n'a pas compris ce phénomène-là, que nous leur expliquons dans les consultations, puisqu'on fait de la physiologie, eh bien, comprenant le phénomène, on a moins peur. Parce que plus on a peur, plus l'adrénaline va être sécrétée, et là, le système va s'emballer. Ce qui signifie que, pour tout ce qui est vécu, ça passe par des sensations physiques. Donc, bon, la psychosomatique, moi je veux bien, mais c'était quand même un alibi des médecins quand, malheureusement, la médecine ne connaissait pas, n'avait pas fait les progrès qu'elle a fait. Quand on était sans médicaments, quand la médecine, quand j'ai commencé mes études, n'était pas thérapeutique parce qu'on n'avait pas les médicaments, qu'on n'avait pas la compréhension et les recherches n'avaient pas abouti à la compréhension des diagnostics, bah, tout ce qu'on ne savait pas expliquer, on disait...
C'est psychosomatique.
C'est psychosomatique. Moi, j'ai quand même le souvenir que l'ulcère, c'était psychosomatique, hein, l'ulcère de stress. Il a fallu 20 ans, pardon, en France, pour qu'on accepte la découverte des Australiens qui leur a valu le prix Nobel et que l'ulcère, il était en grande partie
dû à... Ce que je comprends bien, en tout cas, c'est que vous expliquez à ces adolescents ce qui se passe dans leur corps, et c'est ça qui est important. Il n'y a eu personne avant pour leur expliquer. C'est ça, en gros.
Oui, il n'y a eu personne, parce que, alors là, c'est tout le problème... et de la médecine, et tout particulièrement de la médecine pour adolescents. J'en fais pas une spécialité, j'en fais une médecine spécifique, de même que je ne crois pas que la gériatrie soit réellement une spécialité, parce que les personnes âgées n'ont pas des maladies spécifiques par rapport à, aux gens de 50 ans, simplement elles sont plus souvent malades, seulement la façon de prendre en charge. La façon...
Alors on va revenir justement dans une deuxième partie de cette émission sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait mettre en place pour mieux prendre en charge ces adolescents.
Priorité Santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la prise en charge des adolescents en difficulté avec le docteur Dina Vernant qui a créé un service de consultation pour adolescents en rupture. Ce qui est intéressant, docteur Dina Vernant, c'est que votre service s'adresse aux 13-21 ans. Voilà une adolescence qui est large. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité, probablement.
Non. On n'est pas tous d'accord sur l'âge auquel ça commence et l'âge auquel ça se termine. D'abord, l'âge auquel ça se termine, ça dépend des sociétés. Dans les sociétés riches, ça se termine de plus en plus tard. Dans les sociétés pauvres, je pense à l'Afrique, à l'Asie, les gens, les gosses travaillent très tôt. Donc, forcément, il y a une maturation psychique qui est obligée de se faire plus tôt. Et puis, ça dépend aussi de la génération. Moi, je vois la génération de mes parents, ben on était adultes beaucoup plus tôt.
Mais là, de fait, vous vous rendez compte que mettre un enfant d'une jeune, plutôt de 18 ans, dans un service adulte, c'est souvent mal adapté.
Non, ben c'est pas que c'est mal adapté, c'est pas adapté du tout. On peut pas... alors, quand il y a des parents pour aider et entourer, ça peut encore coller, mais quand il n'y a pas la famille, alors là, ça explose, parce que les services d'adultes, eh bien, on va s'adresser... par exemple, quand on... un adolescent, il ne sait pas poser les questions, et il ne sait pas si c'est la bonne question. Il ne sait pas exprimer son malaise. Il n'a pas les mots encore pour le dire. C'est très confus. Alors qu'un adulte, bon, il va rentrer voir un médecin en disant... Je viens vous voir parce que l'adolescent...
Il a besoin de temps pour poser sa question en plus.
Il a besoin qu'on lui pose la question pour pouvoir y répondre. Si on ne pose pas la question, elle n'émergera pas. Il va voir un médecin en disant « j'ai mal à la gorge ». Ça, en général, c'est le prétexte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal de gorge ? Souvent, c'est justement la chose dont on a peur et dont on ne veut pas parler. un mal de ventre. Vous savez, quand un adolescent vient et nous dit que c'est parce qu'il a mal au ventre, si c'est une fille, la première des choses, je vais demander la date des dernières règles. Parce que c'est ça qui va être derrière. Les choses les plus importantes sont justement celles qui ne sont pas dites. Alors que quand on est adulte, on sait si on va bien ou on va pas bien. On va voir un médecin parce qu'on va pas bien. La question que les adolescents vont nous poser, c'est est-ce que je vais bien ? Est-ce que ma santé m'inquiète ? Parce que je ne sais pas si je suis normale ou pas. Est-ce que c'est normal ? Voilà, tout d'un coup, j'ai brutalement, là, oh là là, ça me fait mal, là, dans la poitrine. Ça dure quelques secondes, je crois que je vais mourir, et ça passe. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est normal ?
Est-ce qu'il faut beaucoup de moyens pour mettre en place un service comme vous l'avez fait ? Est-ce que vous êtes nombreux à travailler ? Est-ce qu'il faut beaucoup de moyens financiers ?
Non. Il y a un rapport qualité-prix extraordinaire, parce que d'abord on est beaucoup dans la prévention, on est à la fois dans la prévention, le curatif et l'éducatif à la santé, mais en technologique ça coûte pas cher, ce sont des consultations médicales longues, alors ça coûte en temps médical, mais peu. Fort heureusement, ont des pathologies lourdes qui vont entraîner des traitements coûteux. Donc, en termes de coûts de santé, ça rapporte plutôt que ça ne coûte, puisque un adolescent qui va bien, c'est un futur adulte qui va aller bien et qui va être sur le marché du travail. On nous parle toujours du trou de la sécu et de ce que ça coûte, on nous parle jamais de ce que la santé rapporte.
Dans votre livre, docteur Dina Vernant, vous êtes assez en colère contre les institutions, contre tout ce qui fonctionne mal, justement, pour accueillir ces adolescents et les soigner, et vous terminez par 10 propositions pour améliorer la santé des 13-21 ans. Alors, on ne peut pas donner les 10, mais est-ce que vous pouvez nous dire de façon essentielle qu'est-ce qu'il faut de façon urgente mettre en place pour améliorer la santé de ces adolescents ?
Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut sortir du mythe sur lequel notre société est en train de continuer de vivre, à savoir tout ce qui avait été mis en place en 1945 par le premier gouvernement du général de Gaulle et qui était fait pour la santé de notre jeunesse. Tout s'est écroulé, sauf et pour vu que ça dure, le système de protection maternelle et infantile. Mais ça s'arrête à 6 ans. Donc on a un système qui tient encore
jusqu'à
6 ans. Après 6 ans, tout ce qui était en place a complètement explosé.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ?
Eh bien, il faut le reprendre. Donc moi, ce que je propose, c'est et l'adapter à notre nouvelle société. Déjà, qu'on revoie tout ce qui est médecine scolaire et qu'on la remuscle et qu'on lui donne les moyens. Ensuite, et la conférence de la famille qui avait s'était tenue il y a 2 ans avait conclu au fait qu'il fallait un examen de santé complet pour tout adolescent entrant en collège. Et ça s'est terminé parce que c'était essentiellement dirigé par des pédopsychiatres. Au lieu que ce soit une consultation complète, c'est devenu un entretien. Je dis non, il faut qu'à l'entrée du collège, il y ait un examen clinique complet des adolescents avec bilan de santé biologique. Car nous dépistons des choses qui sont particulièrement inquiétantes pour l'avenir. La majorité des adolescents que nous voyons ont un déficit en fer. Alors on y reviendra peut-être pour cela signification.
Il nous reste une minute, donc on va pas pouvoir revenir là-dessus, mais c'est important. Et vous, simplement, vous prenez en charge ça, vous donnez les bons médicaments et l'adolescent va mieux.
Voilà, donc, parce qu'il y a 68% qui ont des troubles du sommeil, une partie des troubles du sommeil est due au déficit en fer. Gravissime, on trouve, surtout ceux qui ont des peaux foncées, un déficit en vitamine D. On voit réapparaître des rachitismes, ce qu'on voyait au sortir de la guerre.
Donc cette consultation à l'entrée au collège, après ça, est-ce qu'il faut des centres comme le vôtre dans tous les départements ?
Oui, il faut, à mon avis, des centres de ce type dans tous les départements et à coller dans des centres hospitalo-universitaires parce que c'est une médecine qui s'enseigne, très important, et puis il faut des plateaux techniques parce que le bilan radiologique, biologique, etc. Doit être fait. Ensuite, je demande à ce qu'on refasse ce qui était fait lors des 3 jours d'incorporation au moment où le service militaire était obligatoire, qu'on refasse un examen de santé complet, y compris biologique, à la sortie des études, c'est-à-dire au moment de la journée nationale de défense.
Alors, docteur Dina Vernant, on ne pourra pas donner toutes les propositions que vous faites justement pour améliorer la santé des adolescents, mais je renvoie sur votre livre que vous venez de publier aux éditions du Seuil, L'âge violent. Merci à vous d'être venu et à bientôt. Au revoir à tous et à demain.